Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une émission haute en couleur que nous propose Franck Ferrand en ce début d'après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Voici des couleurs, du contraste, du mouvement même, puisque nous allons nous promener dans l'univers de Rubens, qui illustre deux expositions en ce moment. Nous en parlerons évidemment avec Serge Legas. Pierre-Paul Rubens aura été évidemment l'un des grands peintres de son siècle, mais il ne s'en est pas tenu à la peinture. Figurez-vous que le maître a aussi été un diplomate avisé, ça c'est ce que je vais vous raconter dans un instant.
Et pour rester dans la note, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jean-Baptiste sur les origines de l'uniforme de la garde suisse pontificale.
Oui, dans la note, parce que effectivement, on attribue le dessin de cet uniforme à Michel-Ange. Je vous dirai ce qu'on peut penser de cette tradition. Pour le moment, je vous propose Paradoxe radiophonique, d'en prendre plein les yeux grâce au maître de la couleur et des atmosphères.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le seul nom de Rubens évoque des visages épanouis, des chairs plantureuses, des étoffes généreuses, un goût certain de vivre et de bien vivre. Nous allons tout à l'heure évoquer cette peinture pleine de matière, pleine de couleurs. Laissez-moi pour le moment planter le décor, celui des Flandres, pays d'horizons plats et de canaux, de moulins, de clochers en aiguille, d'étains lustrés, de faïences luisantes, de lustres à globe en cuivre, vous savez, de miroirs bombés avec une douce et maigre lumière un peu verdâtre filtrée par de petits carreaux de plomb sur des intérieurs cossus au dallage noir et blanc dans un univers intime, rassurant qui sent bon l'encaustique, la soupe au pois et la cannelle. Que je ne vous trompe pas pour autant, Rubens n'a découvert tout cela qu'un peu plus tard, parce que lui était né en Allemagne, près de Cologne, où ses parents des Anversois s'étaient réfugiés. On est en effet, vous savez, dans la confusion politique des guerres de religion et de la révolte des Pays-Bas, révolte des Gueux, ce soulèvement des Flandres contre la monarchie espagnole. Le père de Pierre-Paul, Jean Rubens, était échevin à Anvers, autant dire qu'il avait d'importantes responsabilités dans cette municipalité d'Anvers. Je ne sais pas si on doit dire Anvers ou Anvers, d'ailleurs, ça peut-être mieux de faire Anvers comme les Flamands. C'est un avocat protestant, prospère, excellent juriste. Seulement à l'époque, Anvers est sous domination espagnole. En 1568, le terrible duc d'Albe se met à persécuter les protestants dans les Pays-Bas espagnols et Jean Rubens, Jan devrais-je dire, n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec sa femme, la mère de Pierre-Paul, Marie Pipelinx. Vous savez, cette atmosphère et ces circonstances, ça fait penser au film de Jacques Feder, La Kermesse héroïque, en 1935, avec une extraordinaire Françoise Roset qui rameute les femmes de son village de Flandre parce que tout le monde a peur de l'arrivée du duc d'Albe, de son chapelain, joué par Louis Jouvet en l'occurrence, et de toute sa piétaille dangereuse. Eh bien, cette kermesse héroïque, on peut dire que Rubens ne l'a pas connue tout à fait dès la naissance. Le couple de ses parents s'installe à la cour de Siegen en 1570. Ils vont donner naissance l'année suivante à une fille, Christine. Jean Rubens devient le conseiller légal de Guillaume d'Orange et non sans une sorte d'inconscience invraisemblable, il va entretenir une liaison avec Anne de Saxe, qui n'est autre que la seconde épouse de ce haut personnage. Liaison dont on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment platonique. Du reste, la princesse d'Orange met bientôt au monde une petite fille et forcément, on pouvait s'y attendre. Notre juriste est accusé d'en être le père. Ce scandale va le conduire tout droit en prison. Il n'en sortira qu'en 1573 et alors là, c'est assez étonnant, il en sort grâce à l'intervention de sa femme qui, il faut croire, n'était pas trop rancunière en l'espèce. En vérité, Marie Rubens a remué ciel et terre pour sauver son mari. Elle y parvient. Elle arrive à le faire sortir après 26 mois d'efforts. Jean Rubens s'est donc libéré, assigné à résidence à Liegen en Westphalie. Il doit à sa femme une fière chandelle, on peut le dire, et c'est ce moment assez beau de la réconciliation conjugale qui va être scellé par la naissance de deux fils, Philippe en 1574 et puis Pierre-Paul, je dirais volontiers notre Pierre-Paul, Pierre-Paul, qui donc naît le 28 juin 1577 dans cette bonne ville de Siegen. Et l'enfant va passer là-bas les 10 premières années de sa vie. Il faut en effet attendre 1587 et la mort de son père pour que sa mère Marie décide de profiter de la trêve conclue depuis quelques années par Guillaume le Taciturne pour rentrer à Anvers avec ses enfants. Pour Pierre-Paul notamment, c'est donc un radical changement de cadre. Il faut imaginer ce que ça peut être qu'Anvers à l'époque. Ce n'est pas rien, c'est le premier port d'Occident, la deuxième ville de la chrétienté en nombre d'habitants après Paris. L'existence de Pierre-Paul bascule. Dites-vous bien qu'il a 10 ans à ce moment-là, quand il découvre pour la première fois cette cité extraordinaire, cette cité qui hantait durant l'exil familial les conversations de ses parents. Or, quand je vous dis que son existence bascule, ce n'est pas un vain mot, il est en même temps baptisé dans la foi catholique, et ça va avoir un rôle très important pour la suite, on va y venir, et il est en même temps initié à la peinture. Il faut vous dire que très tôt, cet enfant a exprimé son envie de devenir peintre. Alors il va intégrer l'atelier, alors il passe par plusieurs ateliers d'ailleurs, mais il va finalement intégrer celui de l'Anversois Otto Venius. Il se rend compte quand même assez vite que l'équipe là ne compte pas vraiment de talent de grande envergure, et dès lors, il choisit de quitter Anvers et de se rendre à la source de l'art, selon les conceptions de l'époque, en Italie, le 9 mai 1600. Alors qu'il n'a donc pas encore 23 ans, Pierre-Paul Rubens quitte donc Anvers à cheval et il ne reviendra que 8 années plus tard. Il est venu en Italie se mettre à l'école de Michel-Ange de Véronèse, de Raphaël, du Titien bien entendu. À Rome, il se fait remarquer par un cardinal, le cardinal Montalto, et c'est sans doute au Vatican qu'il découvre une activité que dès lors il va pratiquer peut-être au moins autant que la peinture, c'est la diplomatie. Si. À Rome, dira Robert Liber, qui est un fin connaisseur de la diplomatie de Rubens, il assimile les ficelles politiques du métier, le lobbying, joli anachronisme, la recherche de mécènes, les relations avec les évêques et les cardinaux. Voici ce que nous dit Alexis Merle Dubourg dans son ouvrage intitulé « Peter Paul Rubens et la France, 1600-1640 ». À peine arrivé en Italie en 1600, il devint peintre de cour du duc de Mantoue, Vincent de Gonzague, fonction généralement peu accaparante, qui lui laissa tout le loisir de voyager et de trouver d'autres mécènes en Italie. En 1603, le duc Vincent choisit cet homme rompu aux usages de cour. N'avait-il pas, dans son enfance, exercé les fonctions de page auprès de la comtesse de Lélin à Oudenarde, près de Bruxelles, pour remettre en son nom des présents au roi d'Espagne Philippe III et à son tout-puissant ministre le duc de Lerma. Rubens s'acquitta parfaitement de cette mission qui combinait l'art et la diplomatie et annonçait son exceptionnelle carrière de peintre diplomate. En outre, au cours de ce premier séjour espagnol, il sut attirer d'emblée la clientèle du duc de Lerma dont il réalisa un mémorable portrait équestre, inaugurant ainsi une longue série d'œuvres exécutées pour des patrons espagnols. De retour en Italie au début de l'année 1604, Rubens s'illustra dans la peinture religieuse et dans les scènes mythologiques, comme dans le portrait pour le compte des patrons les plus divers, s'imposant notamment auprès des membres du patriciat génois dont il conservera la clientèle après avoir quitté la péninsule. Le 28, il ne va pas la quitter tout de suite, puisqu'il faut attendre le 28 octobre 1608 pour le voir rentrer à Anvers où sa mère est malade, très malade, si malade qu'il va falloir l'enterrer au moins, moins d'un mois plus tard. On peut dire que pour Pierre-Paul Rubens, l'essentiel des années de formation est alors accompli. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, dans l'art, dans le grand art.
Marcello sur Europe 1, un extrait du concerto pour hautbois. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Rubens.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du peintre Rubens.
Alors, ça vous surprend peut-être, cette dimension diplomatique de la carrière d'un peintre, mais il faut bien comprendre qu'autrefois, les peintres, les grands peintres, je devrais dire les grands portraitistes, étaient amenés par définition à côtoyer les souverains. Et ils voyageaient volontiers d'une cour à l'autre pour brosser le portrait de tel roi, de telle reine, de tel prince ou princesse. Rien de très étonnant dans ces conditions, à ce qu'on ait fini par leur confier de véritables missions diplomatiques. Alors, le cas le plus fameux, peut-être l'un des plus anciens, c'est celui de Jan van Eyck, bien entendu, dans les années 1430. Van Eyck était non seulement le portraitiste attitré de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, grand-duc d'Occident, mais il a été son émissaire spécial, notamment auprès de la cour de Portugal, où il est allé là-bas négocier le mariage du duc. Deux siècles plus tard, on peut dire que le grand, le généreux, le prolifique Rubens va jouer un rôle diplomatique au moins aussi brillant, si ce n'est plus, et c'est donc à cet aspect un peu moins connu que j'aimerais consacrer les minutes qui viennent. Rubens avait tout de même fini par devenir si proche de Marie de Médicis qu'au moment de l'exil de la reine-mère, c'est chez lui qu'elle sera accueillie. On sait par ailleurs qu'il a été anobli par le roi Philippe IV d'Espagne en 1624, puis fait chevalier de la Jarretière par le roi Charles Ier d'Angleterre pour avoir tant œuvré pour la paix entre ces deux pays en 1630. Donc, c'est bel et bien d'un homme d'État que nous parlons, au moins autant, pas tout à fait, mais enfin presque autant que d'un grand artiste. Nous n'en sommes pas tout à fait là lorsque Rubens rentre d'Italie. Je vous l'ai dit, en 1608, après plusieurs années d'absence, son pays est entré dans une ère nouvelle. Le roi Philippe II d'Espagne a délégué la souveraineté sur les Pays-Bas espagnols à son neveu et à sa fille, donc les archiducs Albert et Isabelle. Et Rubens, à ce moment-là, jouit déjà d'une belle réputation, ce qui fait qu'assez vite, il s'impose comme peintre officiel de la cour. Il a un atelier, ce sera bientôt d'ailleurs un palais-atelier à Anvers. Il est à même désormais d'inviter qui il veut. Il reçoit en toute discrétion des personnages chargés d'importants messages destinés à l'infante Isabelle. Une autre Isabelle d'ailleurs occupe son intimité, c'est Isabelle Brandt qu'il a épousée le 3 octobre 1609 et qui va lui donner 3 enfants. Cette même année 1609 s'instaure la paix entre les Provinces-Unies et l'Espagne. Les Provinces-Unies dominent tout le nord de cette contrée et l'Espagne à l'époque encore tout le sud. On va appeler cette paix la trêve de 12 ans. Et c'est à cette époque que s'épanouit, on peut le dire, la carrière de Rubens dans la diplomatie secrète. Un homme va jouer un rôle important dans le début de cette carrière, c'est Jan Brandt, qui est un cousin de sa femme. Jan Brandt vit en Hollande, c'est un intime du prince Maurice de Nassau. Il est donc très au fait du désir de ce dernier de conclure la paix avec les provinces du Sud. Alors Brandt, vous savez comment ça se passe, réunion de famille, Brandt raconte ça à Rubens, donc ça a lieu au palais atelier d'Anvers, et dès lors, le peintre peut lui-même en parler à une autre de ses relations familiales, Pierre Peck, qu'on appelle Peckius, c'est le chancelier du duché de Brabant, qui va pouvoir comme ça faire passer le message à l'infante Isabelle. Rubens se met à rédiger ses lettres en langage secret à ce moment-là. Jan Brandt apparaît d'ailleurs sous le surnom du catholique et à la fin de la trêve, en 1621, Bruxelles et La Haye ne communiqueront plus que par lui. Il devient donc ce qu'on appelait à l'époque un truchement. Parallèlement, après cette trêve de 12 ans, en 1621, l'empereur et l'archiduc d'Autriche Ferdinand II de Habsbourg confie à Rubens un certain nombre de missions diplomatiques. Par exemple, le 2 septembre 24, l'ambassadeur français à Bruxelles peut écrire « Rubens est là, pour faire, enfin c'est moi qui dis évidemment, pour faire le portrait du prince de Pologne sur ordre de l'infante. » Rubens, dont les activités de renseignement s'appuient essentiellement sur ce réseau familial, va donc devenir une sorte de, comment dire, de plaque tournante diplomatique, d'interlocuteur incontournable. Il adresse directement ses rapports à l'archiduchesse et au commandant de l'armée espagnole dans les Pays-Bas méridionaux, le marquis Spinola. Par décret, l'archiduchesse Isabelle décide qu'à cause de ses mérites et des services rendus au roi et pour lui permettre de continuer à en donner la preuve avec plus de facilité, Rubens sera désormais rémunéré mensuellement. Alors là, vous avouerez quand même que ça devient assez étrange, notre histoire. Autant dire qu'il est officiellement devenu diplomate au service d'Isabelle. Dans une lettre du 10 août 1623 à un ami astronome, Rubens note ainsi « Le marquis de Spinola part aujourd'hui ou demain pour Maastricht où l'on établit l'arsenal, nonobstant le fait qu'il continue de négocier secrètement pour la paix. » Selon Marie-Anne Lescouret, dans un ouvrage qui s'appelle « Pierre-Paul Rubens, biographie », je cite le premier courrier qui témoigne d'une implication réelle de Rubens dans les négociations là et Bruxelles, date du 30 septembre 1623. Ce n'est pas le seul, car on va voir à partir de là fleurir littéralement cette correspondance de Rubens qui devient un homme politique, pas tout à fait à plein temps bien entendu, mais qui joue un rôle absolument essentiel. Le 20 juin 1626, drame dans la famille, si je puis dire. La femme de Rubens meurt de la peste à l'âge de... Enfin, on disait de la peste à l'époque, hein, on va dire d'une infection épidémique, à l'âge de 34 ans. Le peintre va écrire à ce propos « Elle n'avait aucun des travers de son sexe, une telle perte me frappe jusqu'au fond de moi ». À la même période, la carrière parallèle de Rubens prend un nouvel essor. En effet, son activité de peintre et aussi de marchand d'art, ça on va en parler bien sûr avec Serge Legas, c'est un rôle très important, c'était un grand collectionneur d'antiquités. Sa carrière, qui sert de couverture hein, pour dissimuler la nature de ses déplacements et de ses contacts incessants avec les puissants de l'époque, cette carrière-là va passer un peu au second plan et on va voir Rubens devenir à plein temps homme politique.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du diplomate Rubens.
Alors, tant que le diplomate Rubens joue, si j'ose dire, dans la petite cour du nord de l'Europe où personne ne comprend rien, vous savez, dans ces Flandres, entre les provinces unies, les Pays-Bas espagnols qui basculent d'un côté, de l'autre, avec en plus, là-dessus, une guerre de religion très importante, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que catholiques et protestants se sont battus dans cette région-là, au moins aussi violemment qu'ils avaient pu le faire en France une cinquantaine d'années plus tôt. Tant qu'on en est là, évidemment, on a envie de dire, bon, c'est mais à partir du moment où Rubens devient un véritable agent international et où son rôle ne concerne plus seulement les Pays-Bas mais l'Angleterre et l'Espagne, alors là, d'un seul coup, ça devient assez extraordinaire. Marie-Anne Lescouret estime qu'il s'agit du grand achèvement politique de l'artiste anversois. Il ira le défendre à Madrid et à Londres, débordant la scène étroite des relations entre Pays-Bas septentrionaux et méridionaux, où il avait jusqu'alors cantonné ses fonctions incertaines d'agent occasionnel, affrontant dès lors les plus puissants ministres de son époque pour le mener à terme ce grand enjeu. Ainsi sera-t-il mêlé à l'affaire, la plus grande affaire du XVIIe siècle, nous dit-elle, la guerre de 30 ans commencée le 23 mai 1618 par la défenestration de Prague, je ne vais pas entrer moi dans tous ces détails, et achevée en 1648 par la paix de Münster. Rubens va passer 8 mois à Madrid entre la fin de 1628 et le printemps 1629 et en plus des négociations diplomatiques, il réalise un certain nombre d'œuvres majeures pour Philippe IV. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça n'empêche pas de continuer à peindre tout ça. Il entreprend également une étude renouvelée des peintures du Titien. Il copie de nombreuses toiles du Titien, dont Adam et Ève. Et durant son séjour en Espagne, il va se lier d'amitié avec le grand peintre de cour Velázquez et tous deux projettent de voyager ensemble en Italie. Ça donne des envies d'écrire des pièces de théâtre. On adorerait, on imagine, un Rubens entrant dans l'atelier de Velázquez, l'un et l'autre étant par ailleurs de grands diplomates et étant l'un et l'autre les intimes des souverains de leur temps. Ça donnerait un joli dialogue. Bon, c'est une idée que je transmets à la concurrence, si je puis dire, puisque moi, je sais que j'aurais pas le temps de l'écrire. Voici ce que nous dit Alexis Merle Dubourg dans son Peter Paul Rubens. Le sommet de la carrière de négociateur de Rubens consista pour lui à être envoyé par le roi d'Espagne Philippe IV en Angleterre, nanti du titre de secrétaire du Conseil privé des Pays-Bas, afin de jeter les bases d'un accord devant conduire à la signature d'un traité de paix définitif entre ces deux nations. Ce ne sera pas facile, bien entendu, mais il va s'en acquitter de cette mission-là, Rubens. Il en reviendra avec le titre de sœur. Ce sera sœur Pierre-Paul. Rubens rentre à Anvers en avril 1630. Son ancien mécène, si je puis dire, Marie de Médicis, suivi par son fils Gaston d'Orléans, va se réfugier dans les Flandres après avoir, vous savez, rompu dans les conditions qu'on sait avec Louis XIII et Richelieu. C'est ce qu'on appelle la journée des dupes en France. Et à la demande de l'archiduchesse Isabelle, la gouvernante des Pays-Bas espagnols, Rubens devient l'interlocuteur de la reine-mère dans les Flandres. On a envie de dire, mais jusqu'où montera-t-il, quoenon ascendet, ce personnage extraordinaire? Le but de Rubens dans toutes ses affaires, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est de délivrer sa patrie de la guerre, cette guerre qu'il a connue, j'allais dire, depuis sa naissance et qui avait coûté à ses parents l'exil, bien entendu. En décembre 1633, juste avant de mourir, l'archiduchesse Isabelle envoie encore Pierre-Paul Rubens à La Haye pour contrôler discrètement la façon dont la délégation des États généraux s'acquitte de son mandat. Mais on peut dire qu'à ce moment-là, il a un petit peu perdu la main. Alexis Merle-Dubourg nous dit un certain découragement et la mort de l'infante, qui lui avait toujours témoigné confiance et amitié en décembre 33, mirent fin à sa carrière de diplomate et à ses voyages. Il va finalement rentrer, Rubens, chez lui, et il mourra assez peu de temps après, comme si finalement ce qui avait jusque-là tenu en vie ce personnage et cette nature extraordinaire, flamboyante, ça avait été précisément sa deuxième carrière, celle dont on ne parle peut-être pas assez, cette carrière de diplomate et d'homme d'État. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Franck.
Ce n'est pas la carrière du diplomate et de l'homme d'État que vous êtes venu nous présenter, vous, aujourd'hui. Nous allons parler avec vous, bien sûr, de l'artiste, mais aussi, et c'est très important, du collectionneur, du marchand d'art. On pourrait presque dire du grand organisateur des arts de l'Europe en ce début de XVIIe siècle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de son concerto pour deux violons. Nous sommes au cœur de l'histoire du peintre Rubens cet après-midi, avec vous Franck Ferrand et votre invité Serge Lega, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts.
Bon, alors je vous ai déjà dit bonjour Serge. Comment faut-il dire Peter Paul Rubens, Pierre-Paul Rubens, on a francisé tout ça,
On a francisé tout ça, absolument. Bon.
Alors, on va peut-être pas revenir sur les origines westphaliennes de ce personnage né de l'exil de ses parents, mais en revanche, il faut revenir sur Anvers. D'ailleurs, c'est Sophie qui nous dit via Twitter, il faut absolument se rendre à Anvers pour admirer les trésors baroques de Rubens et de ses contemporains. Je crois que le mot est lâché, baroque.
Baroque, je crois que Rubens est sans aucun doute un des plus grands maîtres du baroque européen. C'est ce baroque flamand très opulent, très riche. Et encore une fois, c'est tout à fait logique par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Franck. C'est également la proximité des Provinces-Unies protestantes qui crée bien sûr un baroque encore plus échevelé, encore plus riche dans le monde qui est encore le monde du baroque sous domination espagnole.
Échevelé, riche, généreux, tourmenté, contrasté, coloré, bigarré, on ne sait quelle épithète employée pour traduire l'incroyable force, l'incroyable mouvement qui figure sur ces toiles. Il y a
une peinture de la puissance.
Une peinture
absolument étonnante et qui correspond justement à cette idée au fond de ce que la contre-réforme souhaitait totalement. Une peinture qui soit une peinture théâtralisée, séduisante, de mise en scène. Le Concile de Trente avait dit que les églises devraient être des antichambres du paradis.
Pour nos plus jeunes auditeurs, après tout, nous sommes mercredi. Je rappelle en deux mots de quoi nous parlons là, c'est-à-dire qu'il y a eu, vous savez, au milieu du XVIe siècle, ce grand mouvement dit de la réforme, sont les protestants, pour parler rapidement, c'est-à-dire des gens qui remettent en cause toutes les pratiques de l'Église et qui veulent revenir aux sources mêmes des Écritures, etc. Et puis, pour contrecarrer ce mouvement de la réforme qui est en train de gagner l'Europe entière, l'Église organise un grand concile qu'on appelle le Concile de Trente, et tous les cardinaux vont plancher, si j'ose dire, vont travailler pendant longtemps pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire, et on va monter ce qu'on appelle aujourd'hui la réforme catholique, mais qu'on avait l'habitude d'appeler avant la contre-réforme. C'est-à-dire que le but, c'est de récupérer le plus possible de fidèles, de les maintenir dans le giron de l'Église, et pour ça, on n'hésite pas à faire appel à la mise en scène, au faste, au décorum. Il faut impressionner le peuple. Hein.
Et prendre l'antithèse de ce que justement les réformés mettent en valeur.
On ne va pas se battre sur le même terrain. En fait.
Voilà, on est complètement dans un domaine différent et le rôle également de l'art devient quelque chose d'important. L'art doit être un moyen de propagande. L'art est au service de la foi et l'art doit aider justement à gagner les fidèles qu'on aurait pu perdre.
Alors on a vu cette veuve ramener ses enfants à Anvers. Le petit père Paul a 10 ans quand il découvre il faut imaginer ce que ça doit être Anvers à l'époque.
Oui, c'est une ville extrêmement riche, une ville puissante là aussi.
Avec un port économique. Il y avait des grues évidemment.
Bien sûr.
Les plus gros navires de l'époque sont là dans ce port. Enfin, tout ça est très impressionnant bien entendu. Et il va lui se vouer d'emblée aux arts, aux beaux-arts. On peut parler d'un enfant prodige ?
Alors, enfant prodige, il rentre en apprentissage très jeune, mais c'est une habitude à l'époque. On peut dire que dès l'âge de 10 ans, il est logique qu'un jeune garçon soit en apprentissage. Le vrai prodige de la peinture, ça sera plutôt un collaborateur et élève de Rubens, qui est Van Dyck. Lui, très très jeune, il aura une espèce de maîtrise absolument hallucinante de tous les moyens qui sont les moyens artistiques. Rubens, il rentre en apprentissage comme on doit rentrer en apprentissage à l'époque. L'âge de 10 ans est tout à fait traditionnel.
Alors il va faire un certain nombre de petits ateliers. On ne peut pas dire que ce soit des très très grands maîtres.
Oui, c'est intéressant parce que par exemple, il est chez un peintre qui s'appelle Tobias Veracht et qui est un paysagiste. Et on oublie toujours que Rubens sera aussi un grand paysagiste. Il est peut-être d'ailleurs le seul vrai paysagiste baroque de l'Europe du XVIIe. Et ça vient aussi de cette formation de jeunesse chez Tobias Veracht. Il est aussi chez Adam van Noort. Et puis vous l'avez dit, Franck, il rentre, qui s'appelle en fait Van Wyn, mais auquel on donne ce côté latinisé qui lui donne un côté plus italien et puis plus humaniste d'Otto Venus. Mais son vrai nom c'est Van Wyn.
Alors comme on est quand même dans ces Flandres, il y a un certain nombre de traditions, de corporations. Il y a notamment la Guilde de Saint-Luc qui joue un rôle essentiel.
Essentiel, absolument.
Et on ne peut rien faire sans passer par...
Le passage est obligatoire par ces guildes et Rubens va se retrouver justement inscrit comme maître. Alors l'idée d'être inscrit comme maître, c'est que la formation est terminée et que l'on est devenu ce qu'on appellerait de nos jours un peintre indépendant. On est maintenant capable d'honorer des commandes.
On a quand même l'impression que les origines bourgeoises et disons-le assez aisées de Rubens ont joué un rôle dans la façon dont il envisage non seulement sa formation mais on va dire les débuts de sa vie. Après tout ce grand voyage en Italie, il faut pouvoir l'accomplir. Il faut avoir aussi le ressort, il faut avoir l'envie d'accomplir un aussi grand voyage. Aujourd'hui ça paraît, vous prenez un billet dans une compagnie low cost, c'est rien. À l'époque c'est extraordinaire.
Et ce sont des voyages forcément longs. Pour plusieurs années, et périlleux. Avec des étapes. Enfin, on a des comptes rendus absolument extraordinaires de ce qu'étaient les auberges à l'époque, qui sont des choses absolument innommables pour la plupart. Heureusement, on arrive dans des palais, mais on n'est pas forcément très bien logé au départ, puisqu'on n'est pas connu. Tout ça, c'est une véritable épopée au niveau de ces voyages d'artistes.
Alors, toutes les grandes villes d'Italie sont sous le patronage d'une famille puissante, et à Mantoue règnent les Gonzagues. Alors, j'ai fait exprès pour vous laisser le plaisir de
faire,
Serge. J'ai fait exprès de passer très vite là-dessus tout à l'heure, mais ça va être la rencontre de la vie de Rubens.
Ah, c'est une rencontre essentielle puisque les Gonzagues sont depuis la Renaissance une famille de très très grands mécènes. Les collections sont exceptionnelles. Chose étonnante, c'est une famille qui perdra toutes ses collections justement par la suite. Les collections vont disparaître puisque la famille perdra la puissance qui était la sienne et au fond pas très longtemps après puisque vraiment dans les années 1627-1630 la famille Gonzague vendra toute sa collection de peinture qu'achètera Charles Ier d'Angleterre, ce qui est aussi intéressant puisque Rubens sera aussi un des peintres pensionnés par Charles Ier d'Angleterre.
Et
la collection de Gonzague partira à Londres en 1627.
Il la connaît bien cette collection, c'est un amateur d'art.
Ah, c'est un vrai amateur d'art et on a un épisode pour moi très révélateur puisque à Rome il se trouve qu'un tableau qui avait été commandé par une église de Rome qui est la mort de la Vierge commandée à Caravage va être refusé par les religieux parce qu'on trouve ce tableau beaucoup trop réaliste. C'est une mort de la Vierge beaucoup trop humaine. Et le tableau est donc mis en place et refusé par les religieux. Et Rubens, à ce moment-là, dit tout de suite à Vincent Gonzague que s'il y a bien un tableau à acheter, c'est cette merveille. Et c'est comme ça que le tableau entre dans les collections des Gonzagues alors qu'il aurait dû orner une des églises de Rome.
Généralement, lorsqu'ils sont en Italie, ces peintres, ces sculpteurs aussi, mais ces peintres se mettent totalement à l'école des grands maîtres. Or, on a l'impression, c'est peut-être subjectif ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'avec Rubens,
La copie est toujours un peu il se la réapproprie en quelque sorte.
Je
me rappelle quand j'étais adolescent, que je faisais beaucoup plus les musées qu'aujourd'hui. Quand j'arrivais devant ces toiles de Rubens, je disais oh, il m'épuise. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ça bouge beaucoup plus que chez les autres.
Rubens est un peintre qui n'est jamais un peintre installé. Il a un besoin à chaque fois de recherche. Et d'ailleurs aussi très révélateur quand il fait des esquisses pour ses propres compositions. Les esquisses sont toujours différentes de ce que sera le tableau final. Et c'est exactement pour la même chose au niveau des copies. Quand il fait des copies d'artistes, par exemple, à Rome, il est absolument émerveillé par Michel-Ange. Il fait des copies de la chapelle Sixtine. Et on a un travail très original et très personnel de la part de Rubens.
C'est presque, on pourrait parler d'une réinterprétation.
Oui. En tout cas, c'est un œil qui regarde un autre artiste et c'est un hommage à travers ce travail qu'il donne lui-même face à l'œuvre d'un autre.
Il y a un côté un peu rond, un peu enveloppant comme ça.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une peinture. Alors, ce sont des dessins, puisque les dessins aussi.
Je parle pas des rondeurs et des enveloppements des dames.
On y viendra, puisque effectivement, ça étonne toujours de nos jours ces femmes plantureuses et très riches dans leur chair. Mais dans les dessins aussi, on a ce besoin de dessiner avec des techniques d'ailleurs très variées. Il utilise toutes les techniques de la couleur. Il aime la sanguine, il aime la pierre noire, il aime la craie blanche. Il aime que le dessin soit aussi riche visuellement parlant.
C'est riche, c'est vivant, ça bouge.
Ça bouge. Le mouvement, c'est un élément du baroque par excellence.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est quand même chez un flamand, il ne faut pas l'oublier. On oppose généralement, et c'est un peu facile, les partisans du dessin qui viendraient plutôt du sud et de l'Italie aux partisans de l'atmosphère qui viendraient plutôt du nord et des Flandres. Chez Rubens, au-delà même de l'atmosphère, c'est la couleur
qu'il va emprunter. Et ce sera d'ailleurs toujours une référence. Il restera pour les siècles à venir la référence coloriste par excellence. Tous les artistes qui seront des coloristes auront une dette par rapport à Rubens.
Alors il rentre quand même chez lui, à Anvers. Il va fonder une famille. Là, il épouse
sa première épouse dont vous avez parlé, Isabelle Brandt, qui est sans aucun doute une épouse, on le voit dans le texte qu'il évoque au moment de sa mort, qu'il a beaucoup aimée. En plus, c'est une femme qui est très liée, vous en avez parlé, au milieu humaniste, intellectuel d'Anvers. Elle lui ouvre vraiment également les portes qui sont ces portes du monde intellectuel.
Alors il est donc l'ami des grands collectionneurs, l'ami des princes. Il s'est mis à l'école des plus grands artistes. Il dispose lui-même d'un talent inouï. Il crée son propre atelier. Il a sa maison qui est une sorte de palais à Anvers.
La maison de Rubens est absolument exceptionnelle.
C'est une très jolie visite
italianisante d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Assez improbable, on va dire. Quelque chose de tout à fait extraordinaire. Où il reçoit lui-même comme s'il était lui-même un grand mécène. Et c'est vrai qu'il est un grand collectionneur. Il est un marchand d'art. Il est un diplomate. Quand je vous dis, il m'épuise.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du peintre Rubens, avec votre invité Serge Legas, conférencier des musées nationaux.
On est loin de Van Gogh et de ces mangeurs de patates, si je puis dire. C'est pas du tout un miséreux, c'est pas du tout un artiste maudit, Rubens. C'est un homme très installé, avec d'immenses relations à l'échelle européenne, très riche, très heureux. D'ailleurs, on a parlé de sa première épouse, il faudrait parler, vous avez raison Serge, de la deuxième.
Deuxième, puisque Rubens se remariera, il se remarie en 1630, et alors il épouse, ce qui est le rêve pour un peintre, il épouse son modèle, c'est-à-dire la femme qu'il a toujours peinte, il la rencontre.
Elle
a 16 ans. 16 ans. Il a 53 ans, elle en a 16 quand il se marie. On peut comprendre la passion qu'il aura pour cette très belle et très jeune épouse. Et il l'aime, mais d'une façon absolument passionnée. Il fera d'elle nombre de portraits tout à fait incalculables. Il la peint sous tous les aspects, habillée, déshabillée, dans toutes les tenues possibles. Et il aime profondément également ce qu'elle lui donne, puisqu'elle lui donnera elle aussi 5 enfants. Donc 3 enfants du premier mariage, 5 enfants du deuxième mariage.
Il l'a peint quand même un peu bien en chair, disons.
Mais ça, il faut évidemment accepter que les critères de beauté changent. Et c'est vrai que de nos jours, on a du mal à faire comprendre, moi je le vois avec mes étudiants, la beauté des femmes de Rubens, qui sont les antithèses des anorexiques.
Quand vous envoyez les diapos, on entend « Oh !»
On parle tout de suite de cellulite et autres, et c'est terrible. Parce que Rubens, c'est une peinture absolument histoire merveilleuse. D'ailleurs, le plus bel hommage qui lui a été fait, c'est Baudelaire, dans un merveilleux quatrain qu'il consacre à Rubens. Et Baudelaire dit « Rubens, oreiller de chair fraîche ».
C'est quand même c'est la plus belle formule qui soit.
C'est exactement ça. C'est le sommet de la peinture sensuelle. C'est l'idée de la peinture charnelle, de la peinture sensuelle. Et s'il y a bien un homme qui a aimé les femmes, c'est Rubens. Il les a profondément aimées.
Il a été proche de Philippe IV d'Espagne, proche de Charles Ier d'Angleterre. Alors, ne parlons pas d'Isabelle, hein, bien sûr, dans les Pays-Bas. C'est un des grands de ce monde, disons-le. Il fait partie du club, en quelque sorte. Quelle est l'organisation de son atelier, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui.
C'est une usine de peinture. Je dirais qu'on est encore dans cette grande tradition des ateliers immenses, comme l'avait été à l'époque de la Renaissance l'atelier de Raphaël, par exemple. C'est d'ailleurs le gros problème à l'heure actuelle, c'est savoir quelles sont les œuvres que l'on peut vraiment donner à Rubens et celles qui sont quand même plutôt de l'atelier. Alors par exemple, on a parlé de la galerie de Marie de Médicis, puisqu'il a travaillé pour cette somptueuse galerie qui est maintenant au Louvre et qui était pour le Palais du Luxembourg. Alors la galerie de Marie de Médicis, c'est sans aucun doute, de toutes les galeries peintes par Rubens, la plus autographe. On est certain que c'est celle où Rubens est le plus présent.
Parce que là, quand même, il travaille pour la reine de France.
Et puis, Marie de Médicis, c'était fine mouche. Ça n'est pas je vais la prendre. Elle avait demandé à ce que toutes les figures soient de la main de Rubens. Et Rubens s'est exécuté. Et évidemment, les parties secondaires sont par l'atelier, mais toutes les figures importantes sont vraiment de la main de Rubens. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres galeries.
Un vaste atelier qui fournit de vastes commandes.
Commandes énormes. Et puis des commandes très variées, puisque l'on donne bien sûr des décors, on donne des tableaux de chevalet, mais on donne aussi des projets qui peuvent être des projets pour les arts décoratifs. Ce sont ces ateliers tout à fait énormes qui donnent une dimension à tout ce qui relève du grand décor, des palais, des églises à l'époque.
Est-ce qu'on peut parler déjà d'un style international pour l'époque? Parce qu'après tout, il répond à des commandes de toutes les cours d'Europe.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'il apporte son style à chaque fois, puisqu'on parlait effectivement des commandes qu'il réalisera à la demande de l'Espagne. Une commande que je tenais à préciser, c'est également lui qui réalisera à Londres, à la demande de Charles Ier, le merveilleux plafond de Banqueting House, qui était cette salle d'apparat qui devait être le point de départ de la reconstruction du palais de Whitehall et qu'on peut toujours voir de nos jours. C'est un grand plafond à la gloire de Jacques Ier, le père de Charles Ier, et c'est un plafond totalement baroque flamand. C'est aussi ce qui est intéressant. Rubens arrive à donner son style à des commanditaires étrangers qui acceptent ce qu'il veut faire.
Il y a quelque chose à la fois de très flamand, on pense à la kermesse du Louvre, par exemple.
C'est l'héritage de Bruegel revu par un œil baroque. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on part de Bruegel dans cette
Bruegel
tradition
modernisé,
de la vie. C'est un Bruegel modernisé, absolument.
Et puis, il y a aussi quand même chez lui du grand portraitiste, un peu à la Van Dyck, par exemple.
C'est prodigieux. Les portraits de Rubens, c'est un thème à chaque fois éblouissant quand on peut les voir, puisqu'il commence par des portraits, entre autres les portraits italiens, qui sont des portraits très détaillés, où il n'y a pas une dentelle qui ne soit pas peinte, où chaque perle d'un collier est présente. À la fin de sa vie, il va plus vite. Et c'est extraordinaire, parce qu'il commence avec une méticulosité, effectivement, qu'on retrouvera chez Van Dyck par la suite. Et puis, ses derniers tableaux sont tellement allusifs qu'il annonce, entre autres, Renoir.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de presque un petit peu près. Alors, attention au terme qu'on emploie,
toujours
mais un
dangereux.
Petit peu pré-impressionniste.
Ah, mais en tout cas,
même,
la passion de quelqu'un, je disais Renoir,
on trouve
fou,
la même chose à la même époque chez Velázquez.
Ah, totalement. Comme par hasard, les deux artistes se sont beaucoup admirés. Ouais. Il y a eu une vraie rencontre en Espagne.
On dit que Velázquez peignait avec des brosses, avec des pinceaux extrêmement longs qui faisaient un mètre de long. C'était le cas de Rubens.
C'est le cas de Rubens et ils avaient tous les deux la même admiration. Le point de départ de la liberté en peinture, c'est Titien.
C'est
et
ça,
le point de départ, c'est Velázquez. Comme Rubens, ont une dette totale par rapport à Titien.
Avec chez Rubens, comme il y avait eu chez Titien, une double inspiration très profane avec toutes ces femmes voluptueuses, etc. Mais aussi une inspiration religieuse et même biblique, disons-le.
Et Rubens, c'est sans aucun doute ce que tu es peut-être hormis à la fin de sa vie, moins présent chez Titien. À la fin de sa vie, oui. Mais Rubens, c'est un homme, par exemple, très très impliqué dans les débats religieux de son temps. La contre-réforme ou la réforme catholique, pour les termes actuels, c'est vraiment quelque chose dans lequel il s'est totalement investi. Van Dyck sera beaucoup plus superficiel à ce niveau-là. Lui, c'est un art qui est un art pour la peinture. Rubens, c'est un homme qui s'implique également dans les débats intellectuels et théologiques de son temps.
Vous avez dit tout à l'heure, Serge Le Gall, et sur le coup, je ne vous ai pas repris parce que je me suis dit on en parlera à la fin de l'émission, mais vous avez parlé d'un Rubens paysagiste. J'avoue que c'est un aspect qui m'a un peu échappé, moi, ça. Mais...
C'est un aspect qui commence relativement tard, puisque le vrai développement du paysage chez Rubens, c'est dans les années 1630. Alors, c'est intéressant par rapport à ce que vous évoquiez dans votre récit, Franck. C'est à peu près l'époque où il va arrêter ses fonctions diplomatiques et c'est à ce moment-là où le paysage qu'il avait déjà traité devient un vrai thème de peinture. Et c'est un sujet qu'il gardera jusqu'à
sa retraite,
en fait. Exactement. Et alors,
chose
merveilleuse,
vocation à lui.
Il achète, ça aussi, quand on parlait de la réussite sociale, il achète le domaine de Sten. Et d'ailleurs, il signera ses lettres « Seigneur de Sten » quand il achète cette propriété qui n'est pas très loin de Bruxelles. Et Sten est un château qu'il a beaucoup représenté, les environs également. Et alors, ce sont des paysages qui sont des paysages soit idylliques, soit des paysages ruraux, avec toujours une nature très généreuse. Ce sont des paysans qui travaillent les labours. C'est une nature qui donne à l'homme beaucoup. Et Franck, vous en parliez tout à l'heure, c'est tout à fait cette idée d'un peintre. Moi, j'aime beaucoup Rubens parce qu'il tue enfin l'idée qu'un artiste est forcément un peintre maudit. Rubens, oui, là, c'est tout sauf ça. Ouais, c'est la réussite sociale, c'est la réussite amoureuse, c'est la réussite familiale.
Politique.
Il en est presque agaçant. Tellement tout lui a réussi. Allez, une enfance peut-être un peu difficile avec l'exil dû au problème de son père. Et puis une fin de vie un tout petit peu obscurcie par la goutte. C'est quand même bien
oui,
peu de choses par rapport
de la
à d'autres.
Goutte, quand même.
On est très
d'ailleurs,
loin.
Il est mort dans de vraies souffrances.
Oui, là,
hein,
il a souffert, oui. Vraiment.
Mais ça a été quand même une vie éblouissante.
Éblouissante.
Hein, un petit peu éclaboussante, hein, c'est vrai.
C'est
ce
une vie
dites, hein.
éclaboussante, oui. Mais moi je dois dire que c'est aussi ce qui montre que le plaisir de peindre à l'état pur existe chez Rubens, c'est que l'art de Rubens, c'est la glorification de la vie. C'est aussi ce qui est très séduisant.
On n'a pas parlé du marchand.
Le marchand, entre autres marchand avec des personnages importants, puisque par exemple il avait une très très belle collection d'antiquités et c'est le duc de Buckingham qui achètera la collection d'antiques de Rubens. Ils s'étaient rencontrés en 1625. Des années plus tard, Buckingham, qui lui-même est un collectionneur, achètera la collection d'antiques et il l'achètera très cher.
La postérité est rapide et aussi éblouissante que le reste. Il va y avoir cette querelle des anciens et des modernes en France au tournant du 18e siècle. Entre ce qu'on appelait les poussinistes, c'est-à-dire ceux qui justement dans la tradition quasi italique continuaient à s'attacher au dessin, et puis les rubénistes.
Comme par hasard, c'est Rubens qui est choisi par les peintres modernes, par les coloristes, et les rubénistes en plus, ce sont eux qui emporteront le combat, puisque la France bascule au début du XVIIIe siècle dans le monde de la couleur. Et d'ailleurs, cette couleur, on la retrouvera jusqu'évidemment à la grande période qui sera une référence en France totale par rapport à Rubens, c'est le roman. Delacroix disait de Rubens, c'est l'Homère de la peinture. C'est quand même un somptueux hommage.
Mais parce qu'en fait, que ce soit la période rocaille, que ce soit la période romantique, ou plus tard au XXe siècle, la période moderne, à chaque fois que l'art quitte les canons un peu classiques ou néoclassiques pour revenir vers un naturalisme flamboyant et plein d'énergie, c'est à Rubens qu'il va chercher, c'est chez Rubens qu'il va chercher son inspiration.
Rubens, c'est ça. C'est la référence à chaque fois de tout ce qui est en dehors de la démarche classique ou classicisante qui est celle de l'Europe. C'est l'autre aspect. Le classicisme se base sur l'Antiquité. Rubens, c'est au contraire cette fougue, cette puissance, ce triomphe, encore une fois, de tout ce qui représente les éléments de la vie.
J'avais la chance l'autre jour, je regardais, disons, la mort de Sardanapale et je me disais que finalement, on est chez Delacroix, mais on pourrait être chez Rubens s'il s'en faut de peu. Hein.
C'est absolument, c'est
Delacroix.
Direct, absolu et direct. Et avec une chose, le rôle des couleurs signifiantes. Ça aussi, Baudelaire l'avait très bien vu. C'est-à-dire que chez Rubens, la couleur n'est pas gratuite. Quand il met des taches de rouge, c'est parce que les personnages qui portent le rouge sont les personnages clés du tableau. Delacroix fera la même chose.
Oui, c'est pas que je veuille vous contredire, Serge, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quand même, et je m'amusais tout à l'heure à regarder le cahier d'illustration au centre du très joli livre de Philippe Meret, La gloire de Rubens.
Hein,
il
livre,
a
oui.
remarquablement choisi les toiles, et notamment cette adoration des mages de 1624, qui est justement à Anvers. Il y en a d'autres, hein, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, dont l'extraordinaire Vénus cherche à retenir Mars du Palazzo Pitti à Florence. Et quand même, on a l'impression que, je veux bien croire qu'il y a un symbolisme de la peinture, mais quand même, quelle gratuité dans la recherche de l'effet, quelle volonté de satisfaire l'œil du public.
C'est une peinture qui s'adresse à l'œil. C'est une peinture qui est là pour l'œil.
Flatte.
Elle s'adresse aussi à l'esprit, bien sûr. Mais c'est une peinture qui doit flatter. Le baroque, c'est un art de glorification. Que ce soit la glorification de l'Église ou la glorification des princes, on doit glorifier. Et la glorification, ça passe par tous les éléments les plus flatteurs. À ce niveau-là, je pense que c'est tout à fait juste, mais ça n'est pas au discrédit de Rubens. Je pense que Rubens est justement un des peintres qui a su allier absolument les deux, et le plaisir visuel et la démarche intellectuelle.
Alors, il faut voir les expositions Rubens. Il y en a une de Rubens à Delacroix, sans dessin du musée des Beaux-Arts d'Angers. C'est au château et au petit château du domaine départemental de Sceaux. Donc là, hein, ça vient de
juste
commencer.
Juste à côté de Paris,
voilà.
Ça vient de commencer.
Jusqu'au 29 juin prochain. Et puis une autre exposition dans le sillage de Rubens, Erasme, Quélin. Ça, c'est à partir du 5 avril. Ben oui, ça vient de commencer aussi. C'est au musée départemental de Flandre à Cassel. C'est le moment d'aller en profiter.
Un voyage vers le Nord.
Mais voilà, d'aller justement se ressourcer dans cette lumière merveilleuse des Flandres avec un petit peu de cassonade, un peu, enfin, tout ce qu'on aime là-bas.
Le plaisir, à tout point de vue.
Et des spéculoos dans le sac à dos. Merci beaucoup, Serge Legas. Comme
merci,
d'habitude,
Franck.
On avait l'impression que Rubens était avec nous cet après-midi.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Jean-Baptiste. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Et il aimerait connaître l'origine de l'uniforme de la garde suisse pontificale.
Alors, il faut dire à Jean-Baptiste que, contrairement à la légende, ce n'est pas Michel-Ange qui a dessiné cet uniforme de la plus petite armée du monde, qui depuis 1506, depuis plus de 5 siècles maintenant, veille à la sécurité des papes. Les couleurs de l'uniforme datent effectivement de la Renaissance, du 16e siècle. C'était tout simplement les couleurs de la famille de Médicis, à laquelle appartenait Léon X au moment où on a fondé le corps. Il faut vous dire aussi que le jaune et le bleu sont les couleurs de la famille Della Rovere, dont deux autres papes de l'époque, Sixte IV et Jules II, étaient issus. Bref, cet uniforme date effectivement au départ du XVIe siècle. Il n'avait rien de si particulier, cet uniforme. On dit qu'il a été dessiné par Michel-Ange parce qu'on a l'impression qu'il est très particulier. Mais à l'époque, tous les soldats portaient à peu près ce genre d'uniforme. Et alors, simplement, il y a un certain conservatisme au Vatican et donc l'uniforme, ben, il a vieilli. Et le coup de génie, si je puis dire, c'est que en 1914, un certain monsieur qui s'appelait Jules Repon, qui était le commandant de la garde pontificale à l'époque, au moment de commander les nouveaux uniformes, au lieu d'essayer de rafraîchir, de moderniser tout ça, il s'est dit non, au contraire, on va revenir à l'origine. Et il s'est inspiré de quelques modèles qu'on voit sur des fresques de Raphaël au Vatican, justement, pour faire cet uniforme tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est carrément devenu folklorique, disons-le, cette garde extraordinaire composée de 110 membres. Alors, je ne sais pas si Jean-Baptiste est suisse, mais si c'est le cas, s'il a entre 19 et 30 ans, qu'il est célibataire et qu'il mesure au moins 1m74, il peut toujours postuler, car ce sont les conditions pour être admis dans la garde de sa sainteté le pape.